L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Allez, levons-nous. On va prier un moment avant de partager la parole. Tu tiens la main de la personne qui est juste à côté de toi et nous allons prier ensemble. Alléluia. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour cette église qui nous accueille si gentiment. Merci Seigneur parce que ce que tu veux, c'est nous faire avancer, mon Père. Tu veux que nous puissions comprendre ton royaume, comprendre les principes de notre destinée et les principes de ton royaume. Père, je prie pour chaque personne ici parce que ce que tu veux, c'est que chacun puisse avancer avec toi et être transformé par l'enseignement de ta parole. Je prie pour que les cœurs soient illuminés ce matin. Père, je te remercie parce que ta parole est puissante, tu es puissant, tu es un Dieu extraordinaire. Et nous voulons marcher, Seigneur, en comprenant réellement qui tu es. Je prie pour chaque personne ici, chaque destinée ici, pour que chacun soit provoqué au changement, pour que chacun puisse comprendre ce pourquoi tu l'as voulu sur la terre et pourquoi tu l'as créé. Père, je te loue et je te remercie dans le nom précieux de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons parler de notre destinée et d'avoir une vision de notre destinée et savoir quoi faire avec notre destinée. Parce que ça, c'est extrêmement important. On va lire un texte dans Proverbes 29, verset 18. 29, 18. Et je vais vous expliquer quelle est la grande maladie de beaucoup de chrétiens, malheureusement. Et il faut le dire aussi de beaucoup de prédicateurs. C'est dans Proverbes 29, verset 18. Je veux vous aider, vous provoquer, vous faire comprendre un certain nombre de choses qui font partie de notre vie spirituelle, sans lesquelles vous ne pourrez jamais avancer avec le Seigneur. Qui veut vraiment avancer avec Dieu ici ? Amen. C'est important de vouloir avancer. Vous n'êtes pas là pour chauffer une chaise. Vous n'êtes pas là pour venir au culte le dimanche et dire « Pasteur Joël, merci, je suis très content pour vécu. » Non, 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 il y a beaucoup plus que ça que Dieu veut pour vous. Amen. Et si vous voulez vraiment créer une église qui change l'environnement, eh bien, il va falloir que vous utilisiez un certain nombre de principes spirituels. C'est très important parce que vous pouvez avoir, entre guillemets, entendre un pasteur, vous pouvez avoir un bon pasteur et le pasteur Joël est vraiment, avec Mathilde, ce sont vraiment des gens qui sont super, qui sont vraiment, je dirais, attachés au Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui veulent vraiment avancer et amener une transformation. Mais ça ne se passera pas tout seul. Amen. Il va falloir que vous soyez de la partie aussi, que vous puissiez vraiment vous joindre sous leur leadership pour vraiment comprendre ce que Dieu a pour vous de spécial. Dans la Bible, il est écrit quelque chose de très intéressant et il est parlé de quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Sans frein, ça veut dire en fait, il s'égare, il va nulle part. Vous savez pas en fait, quand les gens ne sont pas dirigés quelque part, qui n'ont pas quelque chose devant eux à réaliser, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils tournent en rond. C'est pas compliqué, il tourne en rond. Quand le peuple n'a pas de vision, il est sans frein, il va nulle part. Vous trouvez une personne ici, après vous en trouvez une là, et puis après les mêmes personnes, vous les retrouvez de l'autre côté, etc. Ils tournent en rond, ils ne savent pas quoi faire. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui marchent, et en fait, ils marchent et ils tournent en rond. Vous avez déjà fait ça dans votre vie ? Hein ? Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on n'accomplit rien du tout. Pourtant, on fait des efforts, vous êtes d'accord ? On marche, on court, on fait toutes sortes de trucs à droite, à gauche. Et en fait, on est en train de s'agiter et finalement, on ne veut aucune distance. Amen. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est de savoir pourquoi tu as été créé. Il faut savoir que personne n'a été créé par hasard. Nous avons tous une destinée. On va expliquer ce que c'est que la destinée, précisément. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Même si tu es venu peut-être illégitimement, peut-être que... Il y a des gens, parfois, vous savez, ils naissent, ce sont les enfants de prostituées, par exemple. Quelqu'un qui est fils ou fille de prostituée, imaginez-vous un peu, qu'est-ce qu'il peut penser sur lui-même ? Imaginez-vous. Quelqu'un qui a été battu pendant toute son enfance, qui a eu un père alcoolique, qui vient des parents drogués ou je ne sais pas, des vies complètement dissolues, complètement déréglées, etc. Il peut se dire, mais finalement, ou je ne sais pas, quelqu'un qui est né dans une extrême pauvreté et qui se dit franchement, j'aurais mieux aimé ne jamais être venu au monde. Vous savez, un jour, David a dit quelque chose de stupide dans la Bible. Moi, je ne vous entends plus là. Vous savez, parfois, il y a des déclarations dans la Bible que des gens ont faites et qui ont été stupides. Il a commencé à maudire le jour de sa naissance. Et Job aussi l'a fait. David a dit, je suis né, j'ai été conçu dans le péché, etc., etc., etc. Vous savez, ces choses-là, ce n'est pas des choses à dire sur nous-mêmes. Vous savez ça ? Vous savez ça ? Il y a des psaumes que David a écrits où il s'est plaint. Vous savez ça ? Et il n'aurait pas dû écrire de telles choses en tant que se plaindre. Ça, c'est pour nous donner des leçons, pour nous montrer que nous ne devons pas nous plaindre. Mais il y a des gens, Job était comme ça aussi. Au bout d'un moment, il était tellement découragé, il n'avait plus aucune vision dans sa vie. Et il disait, maudit soit le jour où je suis né. Le sein qui m'a enfanté, etc., etc. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas. À partir du moment où vous avez été créé, vous n'avez pas été créé par hasard. Dieu vous destine à quelque chose. Mais c'est très important de le comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée ? Une destinée réelle, selon Dieu, c'est quoi ? C'est Dieu qui a écrit dans le ciel quelque chose qu'il veut que tu accomplisses. Ce pourquoi tu as été créé sur la terre. C'est ça une destinée. Dans le ciel, partout, pour tous les hommes, il y a quelque chose que Dieu a écrit. Quelque chose de spécial, que Dieu a marqué dans le ciel. C'est quelque chose qui est divin, qui est prévu par Dieu pour chaque être humain. Parce qu'à partir du moment où tu as été conçu, que Dieu a créé ton âme et ton esprit, eh bien, à ce moment-là, Dieu a mis quelque chose sur toi. Il a mis quelque chose de spécial sur toi. Maintenant, il va falloir que tu le réalises. Donc, nous connaissons tous Proverbe 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11 nous dit quelque chose. Et en fait, c'est l'équivalent de notre destinée. Dieu dit, Jérémie 29, 11, « Je connais, moi, les desseins ou les projets que j'ai formés à votre sujet. » Les projets que j'ai formés à votre sujet. Jérémie 29, 11. Ça, il faut vraiment que vous méditiez sur ces paroles. Il est très important. Un être humain qui n'a pas de vision, c'est un être humain désespéré. C'est quelqu'un qui ne fonctionne pas normalement. C'est quelqu'un d'anormal. C'est quelqu'un d'handicapé dans le monde spirituel. Un chrétien, je parle particulièrement. Et quelqu'un qui est handicapé aussi dans le monde spirituel. Dans le monde psychique, psychologique, de la pensée. Nous allons parler de ces choses-là, parce que souvent, malheureusement, c'est très mal enseigné, où les chrétiens ont peur de ce genre de choses. Et Jérémie 29, 11 nous dit, en fait, c'est quasiment une définition de la destinée. Je connais, moi, les desseins, les projets, les plans que j'ai formés à votre sujet, que j'ai, moi, Dieu, formé à votre sujet, pour vous personnellement. Oracle de l'Éternel, dessein ou projet ou plan, si vous préférez, c'est moi qui paraphrase tout le temps, bien évidemment, de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi ? Un avenir fait d'espérance. Dieu est amour. Dieu a le meilleur pour chacun d'entre nous. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu peux vivre dans le meilleur de Dieu ou tu peux vivre dans le moins bon de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a quelque chose de particulier, d'excellent pour ta vie, mais tu vas être un facteur déterminant pour savoir dans quelle dimension de ces plans, de ces projets, tu vas vivre. C'est toi qui vas en être responsable. Je le dis souvent, je l'ai dit dans pratiquement partout où je suis passé ici, les chrétiens sont les champions du monde et gagnent tous les trophées et sont tous sur les podiums à la première place quand il s'agit de courir les compétitions de l'irresponsabilité. Ouh. Mais c'est clair. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te sais, etc., etc. Tout ça, c'est très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que Dieu te dit ? Parce que notre destinée, ce que Dieu a prévu d'avance pour nous, il va falloir que nous y entrons. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Si tu n'entres pas, Dieu peut te révéler ses plans. Et tu peux être comme la plupart. Vous savez où il y a les plus beaux plans de Dieu ? Ce sont dans les cimetières. Mais je vous dis franchement, ça fait plus de 30 ans que je suis sauvé. J'ai reçu le Seigneur en avril 1981. Je vous garantis, j'ai vu des gens. Hier encore, avec le pasteur Alain Patrick, avec les frères, avec Jérémy, on était avec Annabelle, avec Evelyne aussi, et Michael, et on parlait de ça. On parlait de gens qu'on a connus il y a quelques années. Ou dont on a entendu parler. Mais c'est dramatique de voir des destinées gâchées, des gens qui avaient des avenirs brillants, à qui Dieu avait parlé, confirmé, reconfirmé. Et puis 10 ans, 15 ans plus tard, vous retrouvez ces gens-là complètement par terre, sur la touche. Des gens qui avaient un avenir, mais vous dites, vous savez, moi par exemple, je n'ai pas fait une grande conversion, entre guillemets. Quand j'ai été sauvé, je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas tremblé pendant 3 jours chez moi, ou l'endroit où j'ai reçu Jésus. Il y a des gens, par exemple, quand ils ont été sauvés, waouh, ça a été des conversions. On a des témoignages, je n'étais pas un drogué, j'étais un pécheur, c'est vrai.
mais j'étais pas quelqu'un de, je dirais, on peut dire, un bandit de grand chemin, etc. Vous savez, des fois, vous avez des témoignages, on se dit, waouh, par exemple, quand vous entendez le témoignage de Nicky Cruz, par exemple, vous dites, waouh, quel témoignage. Alors, vous êtes là, vous avez un petit témoignage grand comme ça, entre guillemets. Et vous dites, bon, bah, apparemment, le Seigneur, il aurait bien aimé que je sois au fond dans le péché jusqu'au bout, etc., etc. Comme ça, j'aurai un super témoignage à donner à l'Église. Non, c'est pas. L'important, c'est pas de là où vous commencez. OK? C'est super d'avoir un merveilleux témoignage de conversion, mais c'est pas ça qui va déterminer si vous allez rentrer dans votre destinée, accomplir réellement. Donc, il faut jamais être frustré si vous avez un simple témoignage ou un jour, bah, vous avez entendu quelqu'un qui a prêché ou le pasteur, il était là et juste à la fin du culte, il a dit à la congrégation, si quelqu'un n'a jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, qu'il s'approche, on va prier pour lui. Puis quand on a prié pour vous, bah, vous n'avez pas vu d'étoiles, vous n'avez pas vu d'anges, vous n'avez pas vu de grande lumière, hein, vous n'avez pas vu toutes sortes de choses, peut-être que vous avez entendu. Moi, la personne qui m'a amené au Seigneur, il a pleuré 3 jours sur ses péchés. Moi, je n'ai pas pleuré 3 jours sur mes péchés. J'ai pleuré sur mes péchés, mais pas 3 jours. D'accord? Et c'est bon, on est tous différents. Ça, c'est pas. Donc, l'important, c'est d'avoir bien sûr Christ dans son cœur et d'avoir vécu ce miracle de la nouvelle naissance. Mais après, il faut savoir comment vous allez manager. Vous n'êtes plus propriétaire de votre vie, mais vous êtes gérant de votre vie. Vous êtes manager de votre vie. Et le maître, c'est Jésus. Votre maître, c'est Jésus. Votre maître, c'est Jésus. Et ce que le Seigneur demande, c'est qu'à partir du moment où nous sommes des intendants, comme dit la Bible, eh bien, Dieu va nous demander des comptes. OK? Pas pour nous condamner, ça sera pour nos récompenses, mais par rapport à ce qu'on aura fait selon ce qu'il nous aura donné. J'ai remarqué une chose, vous savez, c'est pas ceux qui ont eu le plus au départ qui font le plus après. Sachez-le, en général, la majorité du temps, quand on observe les chrétiens. Non, ce sont les gens qui vont comprendre un certain nombre de choses à propos de leur destinée. Maintenant, pour que cette destinée se réalise, il va y avoir des éléments qui sont importants. Mais d'abord, on va regarder dans le psaume 127. Il y a quelque chose que vous devez faire. Parce que je vais vous dire une chose, moi je prêche la consécration, je prêche la sanctification, je prêche le renoncement. Ce sont des messages qu'on n'entend plus beaucoup. Ici, il y a certaines personnes, vous avez plus de 60 ans, et ce genre de messages, vous les entendiez il y a bien longtemps. Et c'est vrai qu'il y a eu de l'abus sur le message de la sanctification à outrance, hein, où on a commencé à ce que je dis souvent, religiosiner les gens, c'est-à-dire on les a amenés à Christ et après on les a enfermés dans une prison. Alors disant, faut pas faire. Ok, ça c'est clair, on l'a entendu, et souvent ça nous a blessés, parce qu'on s'est dit finalement, j'ai reçu Jésus, et on vivait d'une façon bizarre, entre guillemets. On était devenu ultra religieux, ultra bizarre. Certains d'entre nous, ça s'est passé. Ok, maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a certains mouvements aujourd'hui où on dit plutôt, oh, bah, écoute, tu fais comme tu le ressens. Ça veut dire, si vraiment bah, t'es trop tenté, bah vas-y mon vieux, tu te repentiras après. Non, il y a une consécration. Il y a aussi des temps où on doit renoncer à des choses. Nous allons en parler. Parce que si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux entrer vraiment dans les choses que Dieu a pour toi, il y a des règles, des lois spirituelles. Jésus a dit des choses il y a presque 2000 ans et ces choses-là n'ont pas changé. C'est vrai que la bénédiction est quelque chose d'important et je crois dans la bénédiction, mais je ne prêche jamais d'aller chercher la bénédiction. Je cherche toujours de nous approcher de celui qui est la source de toute chose et la bénédiction sera ce qu'on appelle en anglais « a byproduct ». Hein, ça sera un produit dérivé, ça veut dire que ça sera une conséquence. Si la vie de Dieu coule en toi, obligatoirement, il y a des fruits. Soyons clairs. Mais on ne va pas chercher à porter des fruits s'il n'y a pas de sève, s'il n'y a pas de vie. C'est la vie qui amène le fruit, ce n'est pas le contraire. Les gens veulent porter du fruit sans qu'il y ait la vie de Dieu qui coule. Et pour qu'il y ait la vie de Dieu qui coule en eux, il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent faire. Il y a des choses qu'ils doivent changer. Regardons ensemble, la Bible nous dit dans Psaume 127, il est dit, « Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3 que notre fondation c'est Jésus. C'est bien de recevoir Jésus, c'est indispensable, cela va transformer ta destinée éternelle. Ça, c'est la première étape. Et c'est très important d'avoir sa destinée éternelle de changer. Parce que tant que tu es pécheur, ta destinée éternelle, c'est l'enfer. Et puis la résurrection, la deuxième résurrection d'entre les morts, pour aller dans le lac de feu et de soufre, après le jugement de Dieu. Et ça, c'est des choses que nous devons prêcher. Soyons bien clairs. Il y a beaucoup de prédicateurs qui commencent à éviter le mot enfer. Non, non, moi, quand je prêche sur le péché et sur l'enfer. Je suis désolé, parce que c'est une puissante réalité. Soyons clairs. Le message de base de l'évangile, c'est ça. C'est pas viens, on va danser avec des guitares électriques à l'église et gloire à Dieu, tu seras chrétien. On peut attirer les gens avec des guitares électriques, je ne suis pas contre. Mais mettons-les au pied de la croix. Ils doivent être lavés par le sang de Jésus et transformés. Qu'on soit bien clair. Ce message-là, il faut le garder. Parce que de plus en plus, nous avons des mouvements qui veulent attirer du monde avec des techniques du monde. Et en fait, on commence à enlever la partie, entre guillemets, gênante de l'évangile. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis désolé, on n'est pas là pour jouer à l'église. On est dans une guerre spirituelle, dans laquelle il y a des destinées. Et je vois beaucoup de destinées où les gens sont complètement dégommés, c'est-à-dire ils sont détruits parce qu'ils commencent à toucher le monde de Dieu profondément sans avoir les critères et les valeurs divines. Et ça, mes frères et sœurs, il faut faire attention parce que ces gens-là sont détruits. Ils commencent à fonctionner dans le surnaturel, ils commencent à porter des fruits avec Dieu, mais ils manquent de choses. Ils manquent de quoi? De repères. Ils manquent de valeurs divines. Et ça, c'est des choses que nous devons enseigner. La sanctification est quelque chose que nous devons prêcher et enseigner. Soyons bien clairs. Parce que vous savez, de l'eau pure, quand on met des saletés dedans, ça devient quoi? De l'eau trouble. Il suffit juste un peu de saleté pour troubler une eau. Elle n'est plus pure. Ok? Oh, j'entends plus beaucoup de amen. Désolé, j'ai un message qui dérange, soit on m'aime, soit on me hait, mais peu importe. Je préfère que ce soit clair. Nous devons être clairs vis-à-vis de l'évangile de Christ. À partir du moment où nous avons Jésus comme sauveur personnel, maintenant il va falloir construire. Et la Bible nous dit de faire attention à la façon dont nous allons construire. La première chose que tu dois faire si tu veux voir ta destinée, c'est prendre une décision claire. Une décision de construire sur le Seigneur. C'est pas, comme le disait Alain Patrick tout à l'heure, un pied dedans, un pied dehors. Je suis désolé. Tu vas à fond pour le Seigneur. Nous avons besoin de gens qui sont saisis par Christ. Paul le disait. Mais si toi-même, tu n'es pas saisi par Christ, la personne qui va être saisie, tu vas être comme le pompier, tu vas la refroidir très rapidement. Et c'est triste à dire. Parfois, nous avons des gens qui sont enflammés pour le Seigneur et puis d'autres qui les polluent. Qui leur disent, ouais, tu sais, pour l'instant, tu es très enthousiaste. Moi aussi, j'étais comme ça quand je me suis donné à Jésus. Mais bon, tu sais, après ça passe. Oh là là là, quelle misère ce genre de gens. Non, non. T'amènes quelqu'un à Christ, excusez-moi l'expression, les chats font pas des chiens. Et les chiens font pas des chats. Ça veut dire que si t'es pas brûlant pour le Seigneur, alors que t'es déjà en Christ depuis pas mal d'années, eh bien la personne que tu vas amener à Jésus, elle va te ressembler parce que c'est toi qui vas l'encadrer. Et fais attention. Parce que si tu lui montres une vie chrétienne légère, ça n'ira pas loin. Cette personne va chercher un mentor, un exemple. Parce que nous fonctionnons comme ça, en influence, frères et sœurs. Si toi, tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas brûlant pour le Seigneur, si tu ne montres pas vraiment ce que doit être ta vie de une vraie vie de prière, ce que ne doit pas être une vie d'église. Moi, quand on m'a amené à Christ, on m'a dit, le dimanche matin, tu ne fais plus rien d'autre que d'aller louer et adorer Dieu. Et heureusement qu'on m'a dit ça au début. Alors qu'on aurait pu me dire, ouais, tu sais, dimanche, quand tu es un peu fatigué, reste au lit, c'est pas grave. Le dimanche d'après, tu pourrais... Non, 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 non. Il y a des choses indispensables. Soyons clairs. Soyons clairs. Moi, je vois actuellement, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui commencent à se refroidir au niveau de l'Église de Dieu. Actuellement, on est comme ça. Dans les années 90, là, on a vraiment eu un mouvement qui a saisi des églises et qui a commencé à ramener des gens dans les profondeurs de Dieu. Et là, ces dernières années, je vois beaucoup d'églises qui commencent à se refroidir, frères et sœurs, et qui n'en soient pas ainsi. Il y a des critères de vouloir voir notre destinée. Si vous avez une vision ici à Granby ou à Granby, comme vous dites, eh bien, il va falloir qu'il y ait des choses que vous mettiez, des valeurs sur lesquelles vous puissiez construire l'église. Et l'église, c'est qui? C'est nous. C'est chacun d'entre nous. Le reflet de vécu, c'est qui? C'est chacun d'entre vous. Si vous voulez une église bouillante, il ne faut pas attendre que le pasteur seulement soit bouillant. Vous devez, chacun d'entre vous, prendre vos responsabilités par rapport à cela. Et dire, Seigneur, moi, si tu es une destinée, je veux construire sur toi. Tout ce qui est dans ma vie, je veux que ça tourne autour de toi, Seigneur. Mes relations aussi, Seigneur. Je veux que mes relations tournent autour de toi, Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui se donnent au Seigneur et ils ne nettoient pas leurs relations. Ils ont des relations pourries qui, petit à petit, les ramènent vers le monde. Quand il y a quelqu'un autour de ta vie ou dans ta vie ou proche de ta vie, tu n'arrêtes pas de te mettre dans des tentations, tu coupes. Tu gardes pas ce genre de truc autour de toi. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Et quelque temps après, on les retrouve dans le compromis. On les retrouve à vivre des trucs sales à nouveau. On dit, ah oui, on avait prié pour lui, vraiment ça allait beaucoup mieux, et maintenant, il est retombé. Ben, c'est normal. Parce qu'il est influencé. Et quand quelqu'un reçoit Jésus, il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas trop dévier, sinon j'en ai pour 3 heures. Ok. Donc, ce qui est très important dans votre destinée, d'abord, c'est de prendre la résolution, de dire maintenant, Jésus, c'est ma vie. Point. Il n'y a rien à rajouter. Donc, tout ce que je vais faire, tout ce autour de quoi je vais construire, c'est de Christ. C'est lui ma fondation. Rien d'autre. Je me débarrasse des choses. Vous êtes ici dans une société ultra matérialiste. Il y a de quoi vous occuper à peu près 4000 heures par jour. Le dernier truc, le dernier bidule, la dernière chose. Non, il faut nettoyer un peu. Hein. Vous savez, entre les choses de matériel, on en a besoin. Mais que ce ne soit pas une occasion pour dire « Ah ben, j'ai plus le temps de prier, j'ai plus le temps de me consacrer. » Vous êtes dans une société très, très matérialiste. Et les Québécois, vous aimez beaucoup aller faire des petits tours à droite, à gauche, hein, surtout l'été. Je suis désolé. Christ doit être ta priorité. C'est un choix. Parce que si tu veux écouter la voix de Dieu, comme le pasteur Alain Patrick nous a parlé tout à l'heure, moi je vais vous dire une chose. Vous devez chercher, chacun d'entre vous, votre destinée au pied du Seigneur. Mais Dieu ne vous parlera pas si vous ne vous mettez pas dans une position dans laquelle Dieu pourra vous parler. Moi j'ai fait maintes fois cette expérience. Je disais, Seigneur, je voudrais bien savoir ce que tu as pour ma vie. Seigneur, je veux que tu me parles. Et Dieu était silencieux. Et je ne comprenais pas. Et en fait, je me suis aperçu que Dieu ne nous parle pas quand on n'est pas dans une position où on veut écouter sa voix et qu'on veut obéir à sa voix. Ça, soyons clairs. Soyons clairs. Tu peux dire, Seigneur, j'aimerais savoir ce que tu as pour ma vie. Seigneur, je veux vraiment découvrir ma destinée. Seigneur, je voudrais savoir quelle est ta volonté ici. Tu es là, tu pries et c'est le silence. Ce n'est pas par hasard que Dieu fait silence. Dieu ne perd pas son temps avec des gens qui ne veulent pas écouter. Parce que Dieu te parle une fois, il te parle deux fois. Et si la troisième fois, tu ne veux pas entendre, il ne te parlera plus. Il voudra une chose, c'est que, oh, un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, voilà, tu te repentes. Se repentir, ça veut dire se détourner, littéralement, de la voie qu'on est en train de prendre. Et à ce moment-là, tu dis, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, parce que vraiment, je n'étais pas disposé à obéir. Je voulais bien, entre guillemets, que tu me dises quelque chose qui plaise à mes petites oreilles. Et il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, ils aiment bien entendre les petites choses qu'ils ont envie d'entendre. Mais je suis désolé, il y a des fois des choses que le Seigneur te dira, où tu auras dit, Seigneur, je veux bien, mais tout sauf ça. Et Dieu dira, c'est ça pour toi. Soyons clairs, il y a des choses, l'obéissance, si Dieu te parle, l'obéissance de base, la dîme et les offrandes, c'est une obéissance de base. Dieu te testera dans ton obéissance. Oui, le Seigneur m'a dit que je suis un grand prophète, le Seigneur m'a dit que je suis un apôtre, le Seigneur m'a dit. D'accord, est-ce que tu obéis à la parole au départ? Tu veux voir ta destinée s'accomplir. Mais il y a des choses fondamentales, des choses basiques qui sont écrites dans la parole. Ah, il faut que Dieu me parle pour que je donne ma dîme. Non, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Dieu a déjà à parler. Oui, mais pour te joindre à une église locale, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Peut-être spécifiquement, oui, dans le sens où savoir laquelle, peut-être. Mais c'est sûr que si tu restes à la maison en disant « il faut que Dieu me parle pour que j'aille à l'église », Dieu n'a pas besoin de te parler. Une autorité spirituelle, tu en as besoin d'une si tu n'en as pas. Fais très attention à ça. Je suis un fervent défenseur, féroce, de l'église locale et du ministère pastoral. Faisons bien attention à cela. Je suis celui qui dit à toutes les églises où je passe maintenant, vous travaillez sous le leadership d'un pasteur. Non pas avec un pasteur, vous travaillez sous le leadership du couple pastoral ici. Vous devez entourer votre couple pastoral, les aimer, vraiment être à leur disposition. Quand j'étais à l'école biblique, j'entendais un terme qui me déplaisait, où on disait, c'était le fils de Kenneth Hagin Jr. qui disait « You have to serve your pastor ». Je disais « Servir le pasteur ?» Jamais ça. Si, nous avons à servir le pasteur. Moi, je sers le Seigneur. Non, tu sers le Seigneur, mais tu sers le pasteur et tu sers le Seigneur au travers de servir le pasteur. Soyons bien clairs. Soyons bien clairs. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Et ils veulent entrer dans leur destinée. Ils veulent que Dieu leur parle. Ils veulent que Dieu fasse ceci d'eux ou ceci. Dieu fasse telle ou telle chose d'eux. Ça ne marche pas comme ça. Le cœur obéissant, c'est un cœur qui vaut. David avait un cœur obéissant. Vous voulez voir deux destinées une réussie et une gâchée. Ben, vous regardez l'histoire de Saül et l'histoire de David. Saül avait de belles capacités dans le naturel. C'était un grand garçon, beau, venant d'une bonne famille, bien éduqué. Et Dieu a mis une onction sur lui, une onction royale, la première onction royale de l'histoire d'Israël. C'est chouette quand vous êtes le premier dans quelque chose que Dieu fait. Il y en a qui aimeraient tellement ça, être les premiers à être dans un mouvement de réveil, à initier le réveil, les initiateurs. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut le caractère. Alain Patrick en a parlé. Saül avait des gros problèmes. Et c'est pour ça qu'il a loupé sa destinée. Quand on regarde les traits de caractère de Saül, c'était terrible. C'est un homme qui s'est autodétruit, Saül. Il a utilisé les propres armes qu'il avait à sa disposition pour s'autodétruire. Et il a bousillé sa destinée. Dieu l'appelait à être un roi, d'amener vraiment Israël quelque part. Saül n'a jamais pu faire bouger Israël d'un pas. Il devait faire réellement, devait constituer une armée, devait favoriser l'économie d'Israël au travers de la puissance de Dieu. Devait amener les Israélites à obéir à Dieu. Il a tout fait, sauf ça. Quand Saül est mort, Israël était dans un état où il n'avait pas bougé. Ce n'était pas vraiment une nation. David, qui n'avait rien au départ, rejeté de sa famille. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand le prophète Samuel est venu. Ils ont cherché, Isaïe, son père, a amené tous ses fils, sauf qui? Sauf lui. Parler de quelqu'un de rejeté. David était rejeté. Oui, mais moi, pasteur, tu ne sais pas par quoi j'ai vécu. Ok. Ce que tu as vécu avant, ça ne doit pas déterminer ta destinée. Ce n'est pas ton passé qui doit parler plus fort que ce que Dieu a pour toi. Et il y a beaucoup de gens, c'est le cas. La plupart des gens, c'est ça. La plupart des gens, Dieu va leur parler, va leur montrer quelque chose d'extraordinaire, mais ce qui va toujours les rattraper, c'est leur passé. Parce qu'ils vivent dans leur passé. Ils sont tout le temps en train de méditer dans leur passé. Ils n'ont aucune vision. Et sans vision, le peuple est sans frein. Le peuple fait n'importe quoi. Dieu leur parle, mais à chaque fois, leur passé les rattrape. David, c'est un homme qui a mis un trait sur son passé, un jeune homme. Et il s'est fait persécuter. Il a eu tout un tas de problèmes. Il s'est retrouvé avec tout un tas de ce qu'on appelle le couvercle qui l'ont empêché, qui essaie de l'empêcher d'avancer. Mais cet homme avait une vision, avait une destinée. Et ça s'est accompli pour lui. Il a souffert. Et ça aussi, ça fait partie de certaines choses que nous devons comprendre pour notre destinée. Regardons ensemble Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. La Bible nous dit au verset 5, on connaît tous ces versets, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » ou la pensée ou les mentalités qui étaient en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher à être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave ou de serviteur, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant. Les gens n'aiment pas l'obéissance, surtout les francophones. Je ne sais pas pourquoi, ils sont très rebelles, les francophones. En France, on a eu la révolution 1789. Tous vos ascendants ou descendants, ascendants, oui c'est ça, étaient là-bas aussi. Hein. Nous sommes tous de la même famille, hein. Rappelez-vous. Hein. On a eu la révolution. Pourquoi est-ce qu'on a eu la révolution? Il y a des gens qui veulent toujours. On a cet esprit. Dans la francophonie, il y a beaucoup cet esprit pseudo-démocratique. Mais je vous dis une chose. La démocratie n'est pas divine, ça va vous choquer. Nous sommes sous une royauté. Ah oui, certains d'entre vous faites des gros yeux. Désolé, vous adorez qui? Vous adorez Jésus, le roi des rois. Dieu fonctionne sous une théocratie. Dans nos mentalités, nous sommes des démocrates. Mais désolé, la démocratie n'est pas divine. C'est vrai que la démocratie a soulagé la misère des peuples et a limité l'injustice sociale, entre autres, et économique. Ça, c'est ce que la démocratie a fait. Mais à côté de ça, la démocratie a détruit l'image de la royauté que nous devrions avoir, nous les chrétiens nés de nouveau. ça vous choque, mais étudiez la parole de Dieu, frères et sœurs. Dieu n'est pas un démocrate. Je le dis et je le répète, dans le ciel, il y a deux choses qu'il n'y a pas. Un bureau des plaintes et une assemblée nationale. D'accord ? Dieu n'est pas un démocrate. Il n'a pas de bureau des plaintes et il n'a pas d'assemblée nationale où on va voter des lois contre peut-être son accord. Avec Dieu, c'est « j'ai dit, c'est comme ça ». C'est tout. Mais les gens n'ont pas tendance à accepter ça facilement. Ils contestent avec Dieu. Jésus a appris l'obéissance, la Bible va nous dire, c'est la troisième chose, par les choses qu'il a souffert. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Ça, les gens n'aiment pas. Il y a peu de messages maintenant sur la souffrance. J'ai fait des messages, des fois. Et on a besoin de ça, frères et sœurs. Des messages sur la souffrance, oui. Non, mais moi, ce que je veux, c'est sentir la présence de Jésus. Je veux des guili-guili. Frère, tu as dirigé la louange et j'ai senti. Mon frère, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. Dis à ton voisin, c'est pas ça la vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens, ils vivent que par ça maintenant. Je les appelle les charismato-planants. Ça vient de charismatique et ça vient de planeur. Glider en anglais. Et on voit ces gens-là partout maintenant. Ils veulent faire de la gymnastique dimanche matin et sentir des pasteurs. Non, ressentir la puissance et la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Mais tu n'es pas là pour avoir des sensations quand tu viens à l'église. Amen. Oh là là. Je vais partir bientôt. Vous n'allez pas m'aimer, je vous l'ai dit. Regardez bien ce que la Bible dit. C'est lui, verset 7, Hébreux 5, qui dans les jours de sa chair offrit avec grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. C'est ça que ça veut dire, la proximité avec Dieu. Il a appris, tout le monde dit, il a appris. Donc tu dis, je dois apprendre. Non, répétez, je dois apprendre. Répétez plus fort, je dois apprendre. L'obéissance par les choses que je vais souffrir. Dites bien le mot souffrir. Plus fort, souffrir. La Bible le dit. C'est pas moi qui l'invente. Jésus a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Dieu le Fils, en chair, exerçant son ministère, a appris l'obéissance. Il n'est pas dit qu'il obéissait par nature. Il est dit qu'il a appris l'obéissance. Il n'est pas parlé du ciel ici. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Par les choses qu'il a souffertes. Vous n'avez jamais remarqué ce verset ? Ben, il faudrait le remarquer. Parce que la Bible le dit. Paul dira que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ ne seront pas caressés. On ne va pas les caresser comme des chats. La Bible nous parle de persécution. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. On dit, si, c'est pour les pays, les gens là qui sont dans les pays musulmans où on n'autorise pas les chrétiens, tout ça. Non, mais il n'y a pas seulement ça. Non, vous n'avez pas bien compris, je crois. Étudiez les mouvements de réveil, frères et sœurs. Vous allez voir comment les serviteurs de Dieu ont été persécutés, ceux qu'on placarde là. Il y a des gens. Lisez par exemple l'histoire de John Alexander Dewey. C'était un puissant homme de Dieu qui a eu un puissant ministère. À l'époque à Chicago, au début du siècle dernier, cet homme a révolutionné Chicago à l'époque. C'était incroyable, incroyable. Il avait un ministère de guérison. Un jour, il était devant des médecins qui étaient en train de le contester, le persécuter. Il a dit, amenez-moi les médecins. Les médecins sont venus, il y avait une dizaine de médecins. Il y avait quelqu'un qui avait des tumeurs cancéreuses partout ici. Cet homme était capable de dire, vous allez voir la puissance de Jésus. Il a pris la peau cancéreuse avec des tumeurs. C'est une histoire documentée. Il a arraché, il a dit au nom de Jésus, comme ça. Les médecins ont regardé. Ils ont touché la peau. Instantanément, la peau était redevenue normale. Cet homme avait eu un puissant, puissant, puissant ministère. Juste à la fin, il a dévié dans son ministère, c'est une autre histoire. Mais quand il était vraiment sur la piste, cet homme a transformé sa génération avec puissance. Mais Il s'est fait arrêter je ne sais combien de dizaines de fois en train de prêcher. D'un seul coup, la police débarquait et on l'arrêtait et on l'embarquait. Alors qu'il était en train de prêcher à des gens.
Alain, tu t'es fait arrêter comme ça déjà? Jamais. T'as pas encore été persécuté.
Il s'est fait arrêter comme ça. Il était là. Il prêchait. La police l'arrêtait. Il l'accusait de faire de la médecine sans avoir de licence. Parce qu'il guérissait les malades. C'était ces époques-là. Mais aujourd'hui, il y a des gens, quand vous lisez Internet, il y a des sites qui insultent des serviteurs de Dieu puissamment loin. Plus ils sont loin, plus ils sont, on leur tire dessus. Le moindre petit geste qu'un serviteur de Dieu comme ça fait, la moindre parole est déformée. Plus vous fonctionnez loin dans l'onction, plus vous faites des œuvres de Dieu, plus vous allez avoir des ennuis. Moi, dans mon église, deux fois, on a failli fermer mon église au Burundi. J'ai deux lettres du gouvernement émanant du ministère de l'Intérieur. Il y en a une, c'était au début de l'église. On avait un gars du gouvernement qui voulait absolument, absolument me faire des ennuis. Il a écrit une lettre. C'était quelqu'un qui faisait partie du gouvernement. Il a écrit au cabinet du ministère de l'Intérieur en disant « Demande de fermeture d'une secte à l'hôtel. » À l'époque, on se réunissait à l'hôtel Méridien. Un hôtel qui s'appelait l'hôtel Méridien. C'est ça. Et j'ai lu la lettre. Et Dieu a miraculeusement envoyé quelqu'un que je connaissais qui n'était pas de notre église et qui, ce jour-là, était en entretien avec son ami qui était directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur et qui disait « Il a vu la lettre. » Il était choqué parce qu'on se connaissait bien. Et il a dit au directeur de cabinet, surtout ne fais pas l'erreur de fermer cette église. Miraculeusement, ce n'est pas moi qui avais envoyé cet homme-là, ce frère-là. C'était lui-même qui avait été. Une autre fois, un jour, des gens m'avaient cherché des ennuis. Et mon responsable d'accueil du protocole, c'était il y a 5 ans, il me dit, pasteur, je ne comprends pas, on ne peut pas accéder à l'église. C'était avant l'heure du culte, un peu, disons 3/4 d'heure avant l'heure du culte. Il m'a dit, parce qu'il y a la police devant. Je dis, quoi, la police devant l'église? Oui, et il nous empêche d'entrer dans l'église. Imaginez-vous. La Bible est claire. Frères et sœurs, si vous voulez porter du fruit, ça va faire mal à votre chair. Que quelqu'un dise Amen. La Bible nous parle des souffrances du chrétien. Alors, on n'entend plus beaucoup de messages comme ça. 1 Pierre, si vous voulez voir les mots souffrance, lisez 1er épître de Pierre et 2e épître de Pierre. Vous verrez. Alors maintenant, quand on parle des souffrances, certains, vous avez peut-être un arrière-plan très évangélique. Où là, on va vous dire, oui, mon frère, tu es malade, le Seigneur a envoyé la maladie pour que tu souffres. Non, on ne parle pas de ce genre de souffrance. La Bible n'a jamais dit de telles choses. Comme le disait tout à l'heure Alain Patrick, il parlait de la pauvreté, il parlait de toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, ces choses-là, nous en avons été rachetées. Mais très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont vous raconter des trucs comme ça pour vous dire que le Seigneur t'a envoyé ça. Je suis désolé, le Seigneur ne peut pas t'envoyer une maladie parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer la pauvreté parce qu'il vit dans la Nouvelle Jérusalem avec son trône de gloire et c'est lui-même qui a pavé les routes en or. Donc Dieu n'a pas de mentalité de pauvre parce que la pauvreté est une mentalité de toute façon. J'en étais où? Pierre, c'est ça. La souffrance. La Bible nous dit, 1 Pierre 2, il y a pas mal de passages dans Pierre, lisez bien. Si vous avez des concordances là, sur les logiciels bibliques, tapez souffrance et souffrir. Vous allez trouver pas mal de choses comme ça. La Bible nous dit, 1 Pierre 2, 20, quelle gloire en effet y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir péché? Quand tu fais des erreurs, quand tu fais des gaffes, et que tu souffres pour tes gaffes, ou que le pasteur te corrige pour tes gaffes. Vous savez, les gens n'aiment pas la correction de la part des pasteurs. Aujourd'hui, dans les églises charismatiques ou indépendantes, donc on voit, quand quelqu'un pêche, le pasteur lui dit, non, tu as péché. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a une responsabilité, il va lui dire ça, il va dire, non, maintenant, il faut que tu sois sous discipline, parce que la Bible parle de discipline, frères et sœurs. Soyons clairs. Soyons clairs, dans l'église de Dieu, la Bible nous parle de discipline. C'est marqué dans les épîtres, c'est pas moi qui l'invente. La Bible est claire.
Et ce qui se passe à ce moment-là, le pasteur veut donc discipliner une personne. Parce que vous savez, quand un chrétien tombe dans le péché, c'est qu'il a un problème dans son caractère, dans sa chair, dans ses comportements. À partir du moment où tu es né de nouveau, ton esprit est né de nouveau. Mais tu es malade encore du comportement. Tu es malade dans tes pensées, dans tes raisonnements, dans tes mentalités. Et tu es malade sur ta langue aussi. Il y a trois maladies dont on doit guérir. On doit guérir de nos mentalités, parce qu'on est malade dans nos mentalités quand on reçoit Jésus. Parce que le monde a forgé nos mentalités. On est malade dans notre langue aussi. Et notre langue, ce que tu vas dire aujourd'hui, c'est ce que tu vas vivre demain. Tu prophétises ton lendemain. Parce que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des paroles partout, mais sache une chose, si tu es en train de semer constamment des paroles négatives, ça veut dire d'abord que tu es malade dans ta mentalité. Et tu es malade dans ta langue. Et ta langue, c'est une semence pour ta vie. Il y a tout un sujet à faire là-dessus, qui parle aussi de ta destinée. On est dans l'aspect de notre destinée. Et ce qui va se passer, c'est que tu es en train de parler, tu es en train de semer des paroles. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as parlé précédemment. Il faut que tu le saches. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens doivent découvrir. Ce que tu vas vivre demain, c'est ce que tu parles aujourd'hui sur ta vie. Si tu parles des choses pourries du monde, ou si tu ne parles que du monde, tu resteras dans l'atmosphère du monde. Et ta destinée, tu ne la verras pas s'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, le Seigneur m'a promis ceci, donc il va le faire. Je suis désolé, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a une collaboration avec le Seigneur. Ne crois pas que Dieu te placera là où il veut te placer sans que tu aies un rôle à jouer. Et beaucoup de gens pensent là. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit qu'ils prient simplement et que tout va être... Non. Dieu va devoir te transformer. Et pour que tu sois transformé, il va falloir que tu acceptes de changer, que tu guérisses de tes mauvaises mentalités, que tu sois renouvelé par la puissance de la mentalité de Dieu qu'il y a dans sa parole, influencé par lui, que tu changes ta façon de parler et que tu changes tes comportements. Parce que beaucoup de chrétiens sont malades du comportement. Il y a des choses qu'ils font qui sont dans le péché, mais il y a d'autres choses qu'ils ne font pas et qu'ils devraient faire. Parce que le péché, c'est manquer la cible aussi. Manquer la cible, c'est ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Soyons bien clairs. De vivre dans cette dimension, justement, où tu dois vivre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la souffrance est quelque chose de biblique. La souffrance est quelque chose de biblique. Et sache une chose, à partir du moment où tu vas amener des âmes à Jésus, à la maison, tu vas avoir des problèmes. Ah mince, c'est une mauvaise nouvelle. Désolé de te le dire. Il y aura des pressions chez toi. À partir du moment où tu as commencé à vouloir marcher dans la foi et faire, donner au Seigneur d'une façon particulière, le diable va essayer d'attaquer tes finances. C'est normal. Parce que là, tu commences à toucher, à gratter un domaine qui est le monde spirituel de Dieu. Donc, tu risques de souffrir pour un temps. Pasteur, j'ai essayé, ça ne marche pas. On parlait de la correction. J'ai fait une petite parenthèse. Ça va parler peut-être à certaines personnes. Oui, souvent, les gens sont comme ça. C'est à partir du moment où tu as un problème sérieux dans ton caractère. Vous savez, j'ai vu des gens gâcher leur destinée par rébellion. J'en ai vu plus d'un. Quand ton autorité spirituelle, ton pasteur te dit non, tu dois te repentir de ça, tu dois changer. Tu dois changer ton comportement par rapport à ça. Ne te rebelle pas. Parce que lui, il voit quelque chose. Et il te dit ça, pourquoi? Parce que Dieu l'a placé avec une onction. Pour être quelqu'un qui va veiller sur toi. Un surveillant, c'est exactement, je vais vous traduire le mot grec qui veut dire surveillant, c'est évêque. Veiller sur quelqu'un. Dieu a donné des autorités spirituelles pour veiller sur nos âmes. Ce sont les pasteurs, frères et sœurs. Et quand un pasteur est là et qu'il te dit, tu sais, tu devrais changer ça dans ta vie parce que ça ne va pas, il est en train de te corriger et il a raison de le faire. Et souvent, les gens font quoi? Ils quittent une église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent leurs problèmes. Et ils vont raconter partout au pasteur suivant. « Oh, tu sais, pasteur, moi, le Seigneur m'appelle à faire ceci et cela. Bon, c'est vrai, l'autre pasteur, l'autre église, etc., 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 était comme ceci ou était comme ça. » Si tu as un problème personnel qui est sérieux et que le pasteur te dit, pasteur Joël te dit, « Ça ne va pas, tu dois le changer. » Ou « Je t'ai donné cette responsabilité-là, mais tu ne tiens pas la route avec ça. » Il faut que maintenant tu arrêtes et je vais donner à quelqu'un la responsabilité. Accepte ça. Ça va faire mal à ta chair.
ta chair va dire, pourquoi le pasteur ne m'aime plus? Pourquoi? Non, je vais aller dans une autre église parce que moi, au moins, je pouvais faire, je ne sais pas, le multimédia, je pouvais diriger la louange, je pouvais chanter, je pouvais. Ne fais pas ça. Je vais te dire une chose. Là, tu vas aller d'endroit en endroit en endroit et tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi et tu vas gâcher ta destinée. Parce que Dieu veut travailler d'abord en toi. Il ne pourra jamais t'amener là où il t'a montré prophétiquement dans ta destinée. Dieu nous voit toujours prophétiquement. C'est pour ça que quand Dieu nous parle, on est... Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Joseph, ce petit gamin de 17 ans, orgueilleux, préféré de son père. Il était bouffi d'orgueil, Joseph, quand vous étudiez bien. Et étudiez ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit deux songes et la première chose qu'il fait, ma famille, venez, je vais vous raconter. Il était dans une mauvaise position. Déjà, son père le préférait, donc il y avait déjà... Au niveau de la famille, il y avait un déséquilibre terrible entre les enfants. En plus, Jacob était marié à plusieurs femmes. La polygamie, les catastrophes de la polygamie. Avec tout un tas d'enfants de différentes femmes et de différentes servantes. Et ça y allait dans tous les sens. Et cette famille était déjà une famille qui était démembrée en quelque sorte. Et au milieu de ça, Dieu parle à quelqu'un. Vous savez, Dieu nous parle prophétiquement parce qu'il veut que nous ayons un peu de plomb dans la tête de temps en temps. Parce qu'on disjoncte tellement souvent que ça ne va plus. Donc Dieu va nous parler. Et il nous parle prophétiquement. Alors tu es là, tu dis, oh, le Seigneur m'a montré ça, waouh! Alors tu veux dire ça à tout le monde. Mais ce n'est pas ça qui va t'amener dans ta destinée. Ça te montre ta destinée. Mais ce n'est pas ça qui t'amène dans ta destinée. Ce qui va t'amener dans ta destinée, ça va être le travail qu'il va y avoir sur toi. Et la compréhension que tu vas avoir du royaume de Dieu. Parce que Dieu ne t'amènera jamais par hasard là ce pourquoi tu as été créé. Il va falloir que tu travailles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve les plus belles visions dans les cimetières. Parce que la plupart des gens ne veulent pas collaborer avec Dieu, ne veulent pas changer. Et je vais vous dire une chose, la discipline dans l'Église, ça nous fait du bien. Parce que tu peux avoir un appel pour le ministère ou pour faire telle ou telle chose, ou pour faire du business ou quoi que ce soit, sache une chose, si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas capable de comprendre ce que c'est qu'une autorité spirituelle, jamais Dieu t'amènera dans ce qu'il t'a montré. Que quelqu'un dise amen, fort. Parce que soyons clairs, frères et sœurs, le royaume de Dieu a des principes. Dieu marche avec des valeurs. Et malheureusement, souvent, les gens veulent aujourd'hui entendre un message qui leur plaise, qui ne les dérange pas trop. Et je suis désolé, si on veut vraiment faire une œuvre, si ici, à Granby, vous voulez vraiment faire une œuvre, il va falloir vous donner à fond. Ça va faire mal. Soyons clairs, ça fait mal. Ça va faire mal. Il y a des moments où vous devrez souffrir. Il y a des moments où vous devrez vous frotter les uns contre les autres. Il y a des moments où votre pasteur dira « Non, je ne suis pas d'accord avec ça. » Et toi, tu seras « Ben oui. » Et à ce moment-là, il va falloir que tu changes ton caractère. Que tu dises « Pasteur, tu l'as dit, je l'accepte. » À l'intérieur, ça dira « Mais ce « tu vas le crucifier. » Et si tu le fais, je te garantis d'une chose. Dieu va commencer à avoir quelqu'un qui peut utiliser. Parce que les gens veulent être utilisés, mais ils ne veulent pas souffrir dans leur caractère jusqu'à temps que ce soit transformé. Vous savez, en général, quand il y a des pressions sur nous, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Soit on explose, oui, soit on fuit. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Soit on explose, donc on se rebelle, soit on fuit là où il y a des pressions. Parce que nous, on n'aime pas être sous pression. On n'aime pas, l'homme n'aime pas les pressions. Il aime être tranquille, cool, tout va bien. Je suis désolé, foncer dans le monde spirituel amène des pressions. Des pressions importantes. Il y a des gens qui veulent voir une puissante onction dans leurs églises, mais ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir une puissante onction. Ça fait mal. Parce que notre corps est mortel. On a hérité de l'erreur tragique, de la haute trahison qu'Adam a faite dans le jardin d'Éden. Et avoir une fonction forte dans une église, voir une église vraiment prospérer, ça fait mal. Il y a des douleurs d'enfantement. Il y a des moments difficiles où il faut se serrer les uns les autres. Alors que le bateau, il semblerait que le bateau va couler. Et on dit non, on va continuer, on va sortir de la tempête. Et capitaine, c'est votre pasteur. Ne l'oubliez jamais. Jamais. Parce qu'il y a vraiment un problème parmi les francophones de ce côté-là. Les gens ne comprennent pas que le pasteur, c'est le gouverneur. Et vous pourrez souffrir au travers, correctement, au travers de personnes qui peuvent vous reprendre. Maintenant, vous pourrez souffrir aussi parce qu'il y a des pressions, parce que le diable veut absolument vous freiner dans votre vision. Parce que vous commencez à évangéliser, vous amenez des âmes à Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au bout d'un moment, le diable fera tout pour vous détourner, pour vous arrêter votre évangélisation. Il fera tout. Il fera tout. Tout, tout, tout. Le renoncement, c'est aussi une chose dont on parle peu aujourd'hui. Luc 14, c'est pas un message de bonne nouvelle ce matin, mais si, c'est un message de très bonne nouvelle. Mais souvent, les gens ne veulent pas entendre ça, je suis désolé. Luc 14. Verset 25. Si vous étudiez le ministère de Jésus, vous allez voir un certain nombre de choses. Vous allez voir que Jésus avait un cercle très proche, un cercle moins proche et un cercle de gens très éloignés. Au niveau relationnel, je parle. Et on va voir ici qui était Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Waouh ! Quel prédicateur ne voudrait pas voir de grandes foules derrière lui ? Il se retourna et leur dit, moi j'aime trop ce passage, si quelqu'un vient après moi, qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est dur comme parole, hein ? C'est vrai que certains ont dit en hébreu, il n'y a que aimer ou haïr. Ça peut être une explication. Mais Jésus parle vraiment du renoncement ici. On n'a plus beaucoup de messages là-dessus. Hein. Et on en a besoin, frères et sœurs. Sans consécration, sans sanctification, il n'y a pas de puissance dans une église. Qu'on soit clair. Sans consécration, sans sanctification, et je vais en parler dans quelques minutes, il n'y a pas de puissance dans une église. Si les gens veulent simplement que leur vie spirituelle se soit entre 10h et midi et après le pique-nique de l'église, eh bien, je vais vous dire une chose. Vous n'aurez jamais une église enflammée. Vous aurez une église de touristes en short et en t-shirt. Soit dit en passant, faites attention quand vous venez dans la maison de Dieu. L'habillement reflète le reflet de votre excellence quand même. Amen. Ouh là là, vous allez me haïr. C'est pas grave. Verset 25. Il dit, si quelqu'un vient à moi, il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Haïr sa propre vie. C'est-à-dire dire, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est brûler pour toi. Tout ce que je désirais faire de ma chair, je ne le veux plus. C'est dur de dire ça. Il y a des gens, parfois, ils se sentent appelés à quelque chose. Il y a des gens, ils se sentent appelés. Et ils se disent, oui, le Seigneur m'appelle à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils veulent faire la chose selon leur propre pensée. Dieu ne veut pas que tu fasses des choses selon ta pensée. Hein? À partir du moment où ta volonté n'est pas soumise et crucifiée, mise au pied de la croix, je vais dire une chose, Dieu ne sera pas dans le coup. Dieu n'entrera pas dans ta petite boîte. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses comprendre qui il est. Et vraiment que ta volonté lui soit complètement soumise. Et que ta priorité, ce soit lui et lui uniquement. Vous savez, des fois, il y a des gens qui se marient avec des chrétiens ou des chrétiennes qui sont bouillantes. Et au bout d'un moment, ils sont jaloux. Ah, t'es trop avec le Seigneur, toi. Ah, désolé. Dieu passe avant le conjoint ou la conjointe. Soyons clairs. Soyons clairs. Il y a des mariages qui sont faussés dès le départ. Parce qu'il y a quelqu'un qui va épouser. Va dire, on va s'aimer, ok. Et puis, bon, ouais, bon, c'est vrai. Maintenant que je t'ai trouvé, c'est bon, ça va, c'est cool. Maintenant, je vais passer un peu moins de temps avec le Seigneur. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils prient pour se marier. Ils se marient. Et une fois qu'ils sont mariés, bon, bah, Seigneur, t'es bien. Merci pour ma bénédiction. Et leur bénédiction se transforme en quoi? En malédiction. C'est terrible, c'est triste. Moi, ça me fait. Je trouve ça vomissant. Excusez-moi de le dire, mais c'est clair. Quiconque ne porte pas sa croix, et le porter sa croix, beaucoup de gens ont dit, ah, porter sa croix, c'est la maladie, bon, etc. Vous avez compris que ce n'est pas du tout ça. Et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. Et après, Jésus donne des paraboles sur le prix à payer. Si tu veux suivre le Seigneur, il y a un prix à payer. Si tu veux rentrer dans ta destinée, il va y avoir un prix à payer. Il va y avoir une consécration. Il va y avoir une sanctification. Et la sanctification, c'est quelque chose qui est aujourd'hui indispensable à comprendre. Ce n'est pas la sanctification, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est une exigence. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est une option, la sanctification. L'important, c'est qu'ils se sentent bien. Et comme je disais tout à l'heure, tu n'es pas là pour te sentir bien. Ce n'est pas ça l'objectif. Plus tu es proche du Seigneur, bien sûr, une des conséquences, c'est que tu seras dans une paix exceptionnelle, une joie exceptionnelle. Avec des moments difficiles aussi, où vraiment, ton caractère, ta chair va dire, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Ça, c'est la chair. Et la chair, comme le disait un jour quelqu'un, c'est comme un bouchon qu'on enfonce dans l'eau. Vous savez, quand vous enfoncez un bouchon de liège avec une main comme ça dans l'eau, si vous relâchez, vous relâchez votre main, qu'est-ce qui se passe? Le bouchon remonte. Et la chair, c'est toujours comme ça. Il faut toujours la laisser sous pression, dans le bas, la tenir ferme. Vous voyez? Parce que si tu relâches un peu la pression sur la chair, qu'est-ce qui se passe? Hop, elle refait surface. C'est typique de la chair. C'est tout le temps comme ça, la chair. La sanctification, c'est deux choses qui sont importantes. Il y a deux volets dans la sanctification. D'abord, c'est le nettoyage de nos vies. Tu n'arriveras jamais dans ta destinée si tu ne nettoies pas ta vie. Clairement. Et les nouveaux convertis, il faut qu'on soit clair avec eux. Il y a du nettoyage. On doit se débarrasser du péché. Il y a certaines choses qu'on coupe à la hache dans nos vies. Tu es là, tu donnes ta vie à Jésus. Il y a des choses, tu t'en débarrasses immédiatement. Ensuite, dans tes relations, tu les nettoies aussi. Des fois, ça demande un peu plus de temps. Mais il faut être clair. Il y a des gens, par exemple, ils sont trouvés, ils vivent avec quelqu'un. Ils ne sont pas mariés. Et ils font n'importe quoi. Et il y a des moments où tu dois te séparer et puis c'est fini. C'est un choix. Soit tu suis Jésus, soit tu ne le suis pas. Mais si tu commences à marcher dans ce genre de truc au début de ta vie chrétienne et que tu persévères, alors que l'autre ne se convertit pas, attention, fais gaffe. Tu n'as pas d'enfant, tu sépares. Et c'est tout. C'est normal. C'est normal, frères et sœurs. Oh, vous êtes dur, pasteur. Non, je ne suis pas dur. Je suis biblique. Revenons aux sources. Nous voulons voir l'œuvre de Dieu. Il faut venir aux sources. Les sources, c'est la parole. C'est la parole. Oui, je peux vous prêcher la prospérité. Oui, j'ai fait un séminaire sur la prospérité il y a quelques jours, là, chez un pasteur, pendant 5 jours. Mais la prospérité va avec la sanctification. Parce que les gens qui s'enrichissent, qui sont bénis financièrement, ça peut devenir une malédiction pour eux. Ils vont dire, oh, tu sais, pasteur Joël, bah, écoute, je viens d'acheter une nouvelle maison. Et vraiment, ce dimanche, je ne pourrais vraiment pas venir à l'église. Tiens, c'est bizarre, avant, il était tout le temps à l'église. Parce que on ne prêche pas la bénédiction sans la sanctification. Soyons clairs. Quelqu'un qui est béni financièrement, si le caractère ne va pas avec, ça sera quelque chose de terrible dans sa vie. Parce que la vraie prospérité va avec la sanctification. Dieu peut t'appeler à faire un business à des hauteurs gigantesques. Et il faut avoir la vision. Moi, je vais vous dire une chose, si je n'étais pas prédicateur, je ferais tout pour devenir businessman. Je me battrais jusqu'à temps d'être un immense businessman pour donner des dizaines de millions, voire des centaines de millions de dollars partout dans le monde. Je me passionnerais pour ça. Pourquoi? Parce que je veux voir le diable écrasé. Et il y a différentes façons de faire. Si tu es appelé au ministère, tu es appelé au ministère. Tu dois te consacrer au ministère. Et parfois, nous, les ministères, on est obligé de faire des activités à côté parce qu'on ne peut pas vivre forcément directement du ministère, ou pendant des années en tout cas. Et que nous avons besoin de faire vivre nos familles aussi. Mais si je n'étais pas dans le ministère, je ferais tout pour apprendre ce que c'est que le business, de A jusqu'à Z. Tout. Pour devenir le meilleur businessman, faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Comme je le dis souvent, c'est triste que des gens comme le fondateur de Microsoft, Bill Gates ne soit pas un chrétien. C'est les chrétiens qui devraient faire des choses comme ça. On a Zucker machin là sur Facebook là. C'est pareil. Pourquoi c'est pas un chrétien? Il est en train complètement de disjoncter, le pauvre gamin. C'est normal, il a des milliards de dollars. Il a des milliards de dollars, il a 26 ans, il est victime de son succès et il n'a pas le caractère de son succès. Vous voyez les gens du monde. On parlait de Whitney Winehouse. Elle a 28 ans, elle avait 28 ans. Chanteuse de rock, connue dans le monde entier, anglaise, mais dépressive, soularde, droguée jusqu'au bout des ongles. Et ça l'a amenée en enfer. Frères et sœurs, il est temps qu'il y ait des chrétiens qui brillent dans leur destinée. On parle de destinée, là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, j'avais un message un peu sur certains focus. Mais c'est triste à dire. C'est triste à dire, frères et sœurs. Parce qu'on ne parle plus beaucoup de ça. On veut faire des églises. C'est bien de faire des églises. Mais que nous fassions des églises qui sont fondées sur des choses puissantes et de la consécration, frères et sœurs. Si le pasteur Joël vous appelle à prier, à venir faire une matinée de prière et que c'est samedi matin et qu'il fait beau et que c'est le premier jour de l'année où il fait beau, qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, oh, pasteur, on avait prévu avec les enfants d'aller au lac. C'est quoi ta priorité là-dedans ? C'est quoi ta priorité ? Ah, alors on peut plus avoir de vie. Non, tu peux avoir de vie que pour Jésus. Et le reste, quand tu as un peu de temps, tu t'en occupes. Mais ça doit être secondaire. Si ça devient primaire, si c'est tout ce que tu penses que cet après-midi, il y a un pique-nique après l'église, pasteur. C'est pour ça que je viens à l'église. Ah, ah mon frère, ma sœur, repens-toi. Soyons clairs. Le pique-nique, c'est juste la cerise sur le gâteau, c'est tout. Mais si tu viens parce qu'il y a un pique-nique à EVQ, c'est pour ça que tu es à l'église ce matin, repens-toi. Dis, Seigneur, pardon, je suis complètement hop. On dit flipper en français. Pour ceux qui peuvent comprendre. Mais soyons clairs. La sanctification, c'est du nettoyage. D'abord de nos vies. Et les nouveaux convertis, je vous dis, il faut vraiment les mettre rapidement sous la sanctification. Il ne faut pas les religiosiner, mais il faut les mettre sous la sanctification. Ensuite, bien sûr, c'est une approche de Dieu. Une approche de Dieu. S'approcher de la présence de Dieu. Passer du temps avec lui. Du temps de qualité. Au début, on essaye de faire de la quantité. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Après, tu commences à faire du temps de qualité. Et là, tu commences à comprendre. Il y a des choses que vous devez comprendre. Dans votre destinée, Dieu vous parle. Et Dieu vous donne une vision de ce qu'il veut que vous soyez. Il vous a parlé prophétiquement. En fait, lui, pour Dieu, vous êtes arrivé à ce point-là. Pour Dieu, il vous voit prophétiquement. Maintenant, pour en arriver là, il va falloir que tu saches faire travailler ta foi. On a parlé de certaines choses dont on devait renoncer, sanctifier, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler comment vous pouvez utiliser votre foi pour entrer dans votre destinée. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça. Lorsque Jésus va maudire le figuier dans Marc 11, 23 et 24, on va lire ça rapidement. Je vais vous montrer les principes. Jésus va maudire le figuier. Vous connaissez Marc 11. Je pense que le pasteur Joël doit faire quelques sermons sur Marc 11 de temps en temps. Marc 11, versets 23 et 24. Je vous expliquais quelque chose à propos. Sans vision, le peuple meurt. Vous recevez une vision divine. Vous cherchez la volonté de Dieu. Dieu va se révéler à vous. Mais il faut vous consacrer. Il va falloir souffrir. Il va falloir obéir. Il va falloir vraiment avoir les valeurs divines. Parce que Dieu fonctionne avec des valeurs. Mais il y a aussi l'élément de la foi. Parce que vous pouvez dire, moi vraiment j'ai sanctifié ma vie, mais je vois rien. Je vais dire une chose, si tu vois rien, ça veut dire que tu ne sais pas stimuler ta foi. La foi est un élément extrêmement important quand vous marchez avec Dieu, si vous voulez voir de grandes choses s'accomplir. Vous devez être de grands rêveurs. Parce qu'il est temps de rêver, frères et sœurs, de rêver selon Dieu, non pas de rêver pour toi-même. Moi, je suis devenu un grand rêveur. J'étais quelqu'un qui n'avait aucun rêve dans la vie. Pendant des années en tant que chrétien, j'avais une vie plate et super plate. Et je m'ennuyais à mourir. Et j'avais envie d'autre chose, mais je ne savais pas comment voir ces choses s'accomplir. Et j'ai appris à rêver. Aujourd'hui, j'aime passer du temps seul. Je suis un grand solitaire. J'aime être seul. J'aime être des heures seul. Parce que je pense, je songe, je vois. Je vois mon bâtiment, je vois le ministère, je vois les choses que Dieu veut que j'accomplisse. Je les vois, ces choses-là. Et souvent, je les parle à l'avance. Souvent, je me tiens devant mon église au début de l'année et je dis, cette année, voilà ce que nous allons faire. Parce que je les vois à l'avance. Pourtant, je ne suis pas prophète, je n'ai pas de vision. Je ne parle pas d'avoir des visions ici. Je parle qu'il y a des choses dans votre esprit qui... Et je dis, voilà, cette année, nous allons accomplir ça. Nous ferons ça, nous ferons ci, nous ferons ça. Et à la fin de l'année, en général, on a fait plus. Parce que j'aime voir les choses à l'avance. Vous savez, Dieu pense grand. Dieu ne pense pas petit. Dieu ne parle pas petit. Dieu n'a pas une petite foi. S'il te demande de la foi, vous savez, ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Jésus n'était pas interpellé par des gens qui pleuraient devant lui, vous savez. Ou même par des conditions de malades. Des gens qui étaient ultra malades. Ce n'était pas ça qui impressionnait Jésus. Jésus était toujours impressionné par quoi ? La foi. La foi. La foi a toujours attiré la puissance de Dieu comme un aimant attire le métal.
Ça, c'est clair. Dans Marc 11, Jésus va dire quelque chose, et je terminerai par cela, terminé pour le début de la terminaison. Versets 23 et 24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, qu'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé ou il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, Jésus nous donne des leçons de foi extraordinaires. Le verset 23 concerne la foi, ce qu'on appelle horizontale, vis-à-vis des circonstances. Jésus nous dit de parler de nos problèmes, non, parler à nos problèmes. Je pense que vous êtes bien enseigné sur la foi ici. Ensuite, Jésus nous parle au verset 24 de la foi verticale. Ok ? Mais une chose qu'il faut que vous sachiez par rapport à la foi. Vous savez, souvent, les chrétiens, quand on parle de l'imagination, on dit « Ah oui, l'imagination, c'est ce qui m'amène à pécher parce que ça me tente. Mon imagination a travaillé, j'étais sur mon lit, et puis finalement, je pensais à des filles et je me suis masturbé. » Voilà. Ah, tu as travaillé ton imagination. Oui, d'accord. Mais ton imagination est un outil de Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens, à force qu'on leur ait enseigné que la pensée et l'imagination, c'était mauvais. Rappelez-vous que dans l'imagination, c'est dans vos têtes. Il y a les images dans l'imagination. Quand vous fermez les yeux, vous voyez quelque chose, vous avez remarqué. Il y a des choses qui défilent des fois. Ok ? Surtout si tu es sous pression, si tu es perturbé. Et il faut que vous sachiez une chose, c'est que Dieu nous a donné des outils. Notre esprit a une capacité extraordinaire, c'est de générer la foi. Et la foi, c'est ce qui amène le surnaturel de Dieu. C'est ce qui vous amènera à voir des choses s'accomplir dans vos vies que vous n'imaginez même pas. Mais aussi, il faut que vous sachiez que votre foi est soutenue par votre confession. Je parle de votre destinée encore ici. Vous ne pourrez pas rentrer dans une destinée et voir Dieu vous amener loin sans utiliser la foi. C'est pas possible. Les choses ne se passent pas par hasard avec Dieu. Et Dieu vous a donné l'imagination pour que vous puissiez rêver ses rêves. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils pensent que leur imagination est c'est quelque chose qui plutôt les amène à pécher. Non, non, l'imagination peut t'amener à rêver les choses de Dieu extraordinaires. Vous savez, c'est bizarre parce que les païens utilisent des choses que les chrétiens n'utilisent pas. Par exemple, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un ici, il y a peut-être un architecte parmi nous, je ne sais pas. Mais les architectes, qu'est-ce qu'ils font ? Un architecte est capable d'imaginer une maison dans les moindres détails et de mettre en place des gens qui vont amener à la réalisation de cette maison. C'est extraordinaire quand même, non ? Tous les immeubles, toutes les maisons que vous voyez, elles ont d'abord été imaginées dans la tête de quelqu'un. Mais souvent, on n'y pense même pas. On dit, ah, la maison est jolie, d'accord. Ok, mais la maison, elle n'est pas venue toute seule. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit un jour, maison arrive. Vous êtes d'accord ? Parce que ça, c'est bien dans les films, dans les dessins animés pour les enfants. Mais nous savons que la vie n'est pas un dessin animé. Vous avez remarqué ça ? C'est d'abord passé dans l'imagination de quelqu'un. La créativité. Et très souvent, on n'y pense même pas. Et c'est la même chose. Quand tu as une destinée, il va falloir qu'au milieu de tout ce qui peut t'empêcher. Vous savez, les chrétiens, souvent, on a des chants en disant, en parlant, oui, le Seigneur est notre aide, il va nous sortir de ces situations, il est celui qui nous soutient, qui nous protège, qui nous délivre. Tout ça, c'est bien. Mais ça veut dire que t'es dans la galère, t'es malade, t'es dans des attaques, etc., etc. Bon, ça, c'est une chose. C'est bien, pour un temps, de sortir de tes problèmes. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de problèmes. Et la plupart du temps, on a été éduqués comme ça, en disant, voilà, c'est les problèmes qui vont venir. Après, il y a un temps d'accalmie, mon frère, et après, les autres problèmes vont arriver. Et après, tu sais, ça va encore un peu se calmer, une fois qu'on aura bien prié pour toi, et il y a une autre tempête qui arrive pour toi, mon frère. Parce que tu sais, il faut attendre le ciel pour que toutes ces choses-là s'arrêtent. Bon, qu'il y ait un moment dans ta vie chrétienne, à cause de tes maladies, de tes mentalités, de ta bouche et de tes comportements, c'est normal que tu sois encore dans les problèmes, et puis à cause de ton passé. C'est vrai, c'est normal. Mais il y a un moment où tu dois conquérir ton territoire, d'accord ? Ça veut dire que là, tu vas construire. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils ne font pas ça, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre ça. Moi, je suis quelqu'un qui voit, qui visionne, qui me dit, il faut faire ça. Je vais dans un endroit, là, je me dis souvent, tout ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais il y aurait ça à améliorer, il y aurait ça à améliorer, il y aurait ça à améliorer. Je suis comme ça.
Il me dit, tiens, on pourrait changer ça. À chaque fois que je rentre dans mon sanctuaire à l'église, on est en cours de finition. Il y a toujours, je suis là. Et il y a des fois, le dimanche soir, le dimanche après-midi, je vais dans le sanctuaire. On a acheté un sanctuaire qui va contenir 2500 places. Et on a commencé à pas mal de travaux. On a bien avancé. Et je regarde là et je me dis, tiens, ça, il faudrait qu'on construise ça ici. Tiens, ça, il faudrait qu'on fasse ça. Tiens, ça, il faudrait grand. Et j'imagine ce truc-là complètement plein. On est plein sur la partie qu'on a déjà aménagée. Mais je suis toujours en train de penser ça. Il y a un homme de Dieu qui a écrit un excellent livre qui a très mal été compris, qui s'appelle Yonggi Cho. Il a écrit ce livre, La quatrième dimension. Il a très mal été compris, ce livre. Les gens n'ont pas compris. En fait, Yonggi Cho parlait comment stimuler ta foi par rapport à ce que Dieu t'a dit, je dis bien, ou des promesses de la parole, et par rapport à ton imagination. Parce que ton imagination va stimuler ta foi et va soutenir ta foi. Beaucoup de gens ont pris pour eux. Ils sont là, oui, pour que le Seigneur accomplisse telle et telle chose. Ils sont là dans leur destinée. Ils demandent, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux... Ok, tu dis ok. Tu pries pour lui, etc. Et la personne, elle sort. On sent qu'elle était vraiment... Le Seigneur l'a touchée à ce moment-là. Et elle est stimulée dans sa foi. Et puis, quelques temps après, vous voyez qu'elle n'a pas changé de dimension. Dieu t'appelle à conquérir. Arrête de t'asseoir et te dire, maintenant, je suis un bon chrétien, j'ai plus de problème, tout va bien dans ma famille, ça va bien dans ma santé, j'ai un bon boulot, etc. Ça, c'est bien, mais c'est que le début. C'est pas ta destinée, ça. Chauffer une chaise dans une église n'est pas ta destinée, mon frère. Dieu t'a appelé à quelque chose de spécial. Il faut que tu le découvres dans l'intimité avec lui et il faut que tu le réalises. Moi, je ne veux pas finir sur cette terre en étant juste un petit souvenir. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est accomplir ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je veux le faire. J'ai tout donné pour ça. Donc, je ne suis pas prêt. En ayant payé un certain prix, je ne suis pas prêt à revenir en arrière. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien, sinon ça ne m'intéresse pas. Franchement, avoir une vie misérable, je me souviens quand j'étais, au bout de quelques années, je me posais beaucoup de questions, au bout d'à peu près 10 ans de ma vie chrétienne, je disais à Dieu, mais autant que j'aille au ciel, Seigneur, je suis en train de pourrir dans un coin de France, autant que j'aille au ciel. Au moins là-haut, tout est bien, c'est bon. Mais c'est une prière stupide. Vous savez qu'on fait des prières stupides parfois? Parce que Dieu avait quelque chose. Et frères et sœurs, pensez grand, rêvez grand. Mettez-vous, quand vous êtes avec lui, moi je ne peux pas concevoir que des gens passent du temps avec Dieu et vont vous raconter après leurs petites histoires malheureuses. Je n'arrive pas à comprendre ça, comme disait le pasteur Alain tout à l'heure. Tu sais, tu passes du temps avec lui, il y a quelque chose qui doit rayonner de ta vie. Il y a quelque chose qui doit t'inspirer. Il y a une influence que tu as reçue de lui qui doit influencer le milieu dans lequel tu es. Parce que nous sommes appelés, non pas à être des générateurs de problèmes, la plupart des chrétiens, ce sont des générateurs de problèmes. Ils ont monté des boîtes, d'ailleurs, ça marche bien. Et leur compagnie marche bien, générateurs de problèmes, professionnels. Un pro à votre disposition, 24 heures sur 24. Et en plus, on vous charge. Par heure. Non, nous devons être des résolveurs de problèmes. Mais si toi-même, tu n'as pas résolu tes problèmes avec la puissance de la parole, comment est-ce que tu peux apporter des solutions aux autres? Viens à Jésus, tu seras malheureux comme je suis malheureux. Non. Trop de gens sont comme ça. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Bah moi, je vais à l'église. Hein. Et je chante même. Hein. Mon frère, je ne sais pas s'il sera attiré par toi. Hein. Il y a des inconvertis, ils vont vous dire, vu ce que tu vis, mon frère, mon cher ami, j'ai pas trop envie de devenir comme toi. Hein. Non. Alors que quand tu es quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui voit grand, quelqu'un qui réalise des choses, les gens sont là et ils se posent des questions. Ils disent, mais t'es qui toi? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où tu dis, tu sais, j'ai quelqu'un, c'est Jésus. Et là, les gens sont attirés. Les gens sont très peu attirés par l'Église de Dieu. Parce que l'Église n'inspire pas suffisamment. Et l'Église, c'est vous, frères et sœurs. Dites pas, l'Église, c'est vécu. Vécu, c'est vous. Soyons clairs. Moi, dans mon Église, j'attire plein de politiciens, j'attire plein de businessmen aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a créé tout ce qu'il fallait pour qu'aujourd'hui, les gens d'influence viennent. Il y a à peu près 2-3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans,
j'ai prié. L'église grandissait pas mal, mais je me suis aperçu que souvent les églises, excusez-moi, comprenez, soyez pas offensés avec ça, d'accord, mais regardez bien les églises. La plupart des églises n'ont pas les gens les plus excellents dans la société. Comprenez ce que je dis ? Non, mais soyons clairs, frères et sœurs. Ça prouve qu'on n'attire pas, ou nous-mêmes, nous ne devenons pas les meilleurs. Comprenez bien, j'offense personne ici, que ce soit bien clair. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que Dieu nous appelle à être les leaders, et souvent on est les suiveurs du tout au fond. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je suis désolé. Si Dieu touche ta vie, tu dois devenir quelqu'un d'excellent. Ça ne va pas venir du jour au lendemain, comprends bien. Mais tu dois être le meilleur. Si tu es médecin, on devrait parler de toi, non pas pour toi-même, mais parce que Dieu t'a inspiré, t'a donné les meilleures idées et les meilleures compétences, et tu les as développées. Si tu es dans le business, tu devrais avoir la plus grosse société du coin. Alors que tu as commencé avec un petit truc, avec quelques milliers de dollars. Je suis désolé, c'est ça qu'on devrait refléter. Si on a un Jésus excellent, qui a toute la connaissance, ayant créé les cieux et la terre, pourquoi est-ce que la plupart du temps, les chrétiens restent dans la médiocrité du premier jour où ils se donnent au Seigneur jusqu'à pratiquement le dernier jour ? Posez-vous la question. Soyons clairs. Comprenez bien ce que je dis. Hein. C'est une provocation au changement. D'accord ? C'est-à-dire, pour que vous, chacun d'entre vous, vous puissiez vous dire, mais finalement, Seigneur, qu'est-ce que tu as de meilleur pour moi ? Dans le domaine où tu veux que je puisse agir, là où tu m'as placé, Seigneur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui suis en haut du panier ? Pourquoi est-ce qu'on est en bas du panier ? Et la plupart des chrétiens, regardez, la plupart des églises, je connais moi des églises sur 3 continents, et j'ai fait cette triste constatation. Et je disais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des businessmen qui viennent dans l'église ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des gens d'influence dans l'église ? Parce que quand vous avez beaucoup de gens d'influence dans une église, vous êtes influent dans la société. Ce n'est pas la ville qui va vous dicter « Non, on ne veut pas d'église ici ». On va vous dire, monsieur le maire vous dira, pasteur Joël, bonjour. Le banquier dira, pasteur Joël, bonjour. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Parce qu'il sait que le pasteur Joël a 200 businessmen qui représentent la moitié du truc de la banque, quoi. Vous comprenez le? J'essaye de mettre quelque chose en vous. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'essaye de mettre quelque chose en vous. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris. J'ai compris très récemment, mais vous savez, moi, je suis très lent à comprendre, mais quand je comprends quelque chose, il n'y a personne qui peut me convaincre du contraire après. Et là, j'ai compris une chose, c'est que les chrétiens doivent devenir des gens d'influence. Si vous avez d'excellents chrétiens, remplis de l'esprit, remplis de la parole, des gens qui sont attachés fermement au Seigneur, qui sont influents dans une société, et que vous en avez un certain nombre dans une église, la communauté autour commence à dire, c'est qui ces gens-là ? Et là, vous avez de l'influence. Et ça se gagne. Ça se gagne à partir de gens qui partent de rien et qui d'un seul coup sont complètement bouleversés par le royaume de Dieu, dans le domaine où Dieu les veut, dans leur destinée. Et aussi après, au bout d'un moment, vous commencez à tirer. Et c'est comme ça que des gens... Et j'ai prié le Seigneur à cette époque-là, j'ai dit, Seigneur, je veux voir au moins 200 personnes dans l'année, je crois que c'était l'année 2009, quelque chose comme ça. On avait une église qui commençait, elle avait bien grandi, puis au bout d'un moment, elle avait stagné pendant à peu près 2 ans. Et j'étais frustré avec ça. Je dis, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on stagne là ? Et le Seigneur m'a montré à propos de l'influence. Et à ce moment-là, j'ai brillé et j'ai commencé à voir des gens venir. Et on a commencé à toucher des gens. Aujourd'hui, on fait des séminaires business. Les inconvertis viennent à nos séminaires business. Et ils payent pour nos séminaires business. Et ils sont provoqués. Et certains se convertissent. La dernière fois, on a eu à peu près une vingtaine de personnes. On a fait un séminaire business avec un businessman camerounais, mais qui vit en Côte d'Ivoire. Et on a fait, vraiment, les gens étaient tellement contents, inconvertis. On avait des cathos, on avait des inconvertis, on avait toutes sortes de gens qui étaient venus. Puis des gens sauvés aussi. Et des gens qui représentaient une partie de la société là-bas. Et vous savez, les gens se regardent. Et à la fin, on a fait un dîner d'évangélisation. Et croyez-moi, juste avec ces businessmen qui avaient assisté, et ils ont amené leurs conjoints et leurs conjointes, et on a eu environ une vingtaine de personnes qui se sont données au Seigneur. Et une partie sont dans notre église aujourd'hui. Et les prochaines demandent une chose, quand est-ce que vous refaites un séminaire business ? Et d'autres sont venus à l'Institut biblique. Et on a beaucoup d'influence, de plus en plus d'influence. Mais je suis très discret, moi, vous savez, je ne cours pas après les gens. Par contre, je mets en place des façons où les gens sont attirés. Et vous devez être une église attirante, frères et sœurs. Et vous le serez par la qualité
de qui vous êtes. Si vous êtes des grands visionnaires, vous allez inspirer des gens. Si vous êtes des gens déprimés, qui pensaient petit, qui avaient des témoignages où il faut chercher le microscope électronique pour savoir si, quelle est la partie du témoignage où Dieu a agi, eh bien, on n'ira pas loin. Vous voyez ? Et il faut des gens qui pensent grand. On est l'Église des dieux. C'est nous qui devons briller. Partout, dans toutes les villes où nous sommes, nous devons briller. Et pour briller, il faut des gens qui pensent grand, qui voient leur destinée devant eux. Et à ce moment-là, tu amènes un changement. Et plus nous sommes à faire ça, plus l'Église brille. Plus l'Église brille, plus Jésus brille. C'est pas compliqué, c'est tellement simple. Les gens disent, Seigneur, je veux que tu brilles, etc. Mais Jésus va briller au travers de toi, mon frère. Maintenant, il faut que tu changes. Maintenant, il faut que tu comprennes ce que Dieu a pour toi. Dieu n'est pas dans les petits trucs, je suis vraiment désolé de le dire. Je suis vraiment fatigué. Entendre des chrétiens qui témoignent, je vous dis, c'est pour le microscope électronique pour chercher ce qu'ils ont vécu. Non. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions amener un puissant changement là où nous sommes. Partout, dans n'importe quel milieu. Nous, on a commencé dans un milieu, mais terrible. Quand nous avons commencé l'Église, on était au milieu de la guerre civile. Enfin, au début de la guerre civile. Enfin, milieu début, oui, on peut dire. Les gens étaient au chômage. Les gens avaient peur de partout. Ils fuyaient de partout. Ils fuyaient le pays, partout. Partout. Mais au milieu de ça, on a prêché le message. Les gens pensaient que j'avais de l'argent, c'était pour ça que j'avais commencé une Église. J'ai dit, non, j'ai pas d'argent. Le Seigneur m'a dit, Église autofinancée. J'ai dit, Seigneur, merci pour le cadeau. On est en pleine guerre civile, on est en galère comme tout. J'avais pratiquement pas de soutien financier. Mais on a payé le prix. Et aujourd'hui, les gens viennent voir. Ils viennent de partout, de plus en plus. Et ils veulent voir ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Et c'est simple, ça s'est passé avec des fondations que je vous ai enseignées ce matin. Mais au début, c'était pas compris. En tout cas, je ne le comprenais pas. Je n'avais pas compris ça. Ayez une grande vision des choses selon le cœur de Dieu. Je ne vous parle pas de fabriquer votre vision, parce que certains enseignent ça et c'est faux. Mais cherchez la face de Dieu. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, moi je veux savoir pourquoi j'ai été fait. Pourquoi j'ai été destiné. J'ai bien aimé cet homme de Dieu que je regardais récemment. Vous avez tous entendu parler du réveil de Brownsville, il y a bien des années. Et il y a le pasteur Kilpatrick qui était là. Et cet homme-là est en train de revivre quelque chose d'extraordinaire avec un évangéliste, Nathan Morris, là, récemment. Et franchement, ce qui me provoque, et je dis à Dieu, mais Seigneur, tu as utilisé deux fois un homme pour des mouvements de réveil. Ça doit nous interpeller, ça, non, Joël? Deux fois, la même personne. Et ça s'est passé de la même façon. Il y a quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se mettent à disposition de Dieu et qui ont de grandes visions. Et qui sont capables de comprendre comment Dieu fonctionne dans le royaume. Amen. Je vais vous laisser là, parce que sinon on va y passer toute l'après-midi. Ça ne me gênerait pas, mais c'est vous qui va gêner. Père, nous voulons te remercier et te dire, Père Céleste, nous voulons comprendre ce que c'est la destinée. Nous voulons vraiment, Père, penser grand, imaginer grand comme tu imagines grand, Seigneur. Parce que tu n'es pas le Dieu du petit. Tu n'es pas quelqu'un, Seigneur, qui croit peu de choses. Mais Seigneur, tu as créé le monde par ta parole. Et tu as parlé et les choses sont venues à l'existence. Et tu veux, Père, que chacun d'entre nous, nous comprenions la puissance que tu nous as donnée. La puissance de la foi, la puissance de la destinée. La puissance de notre imagination, Seigneur. De nos pensées, de nos paroles et de nos actions. C'est pourquoi je prie, Père, pour que tu puisses vraiment toucher ce peuple. Et que cette Église sois faite de grands rêveurs selon ton cœur, Seigneur. Parce que c'est ce dont tu as besoin pour que nous puissions avoir un impact et transformer le milieu dans lequel nous sommes, Seigneur. Nous voulons voir les villes changer. Nous voulons voir les régions changer. Nous voulons voir, Seigneur, les pays changer. Mais pour cela, mon Père, tu as besoin de nous. Et je te remercie parce que tu nous as choisis dans des temps dans lesquels nous vivons. Merci, mon Père. Je prie pour chaque personne ici, pour qu'elle cesse de penser petit, de croire petit, de parler petit, mais qu'elle commence à voir comme toi tu vois, à penser comme tu penses, à parler comme tu parles, et à vouloir voir sa vie être complètement, totalement révolutionnée et aller dans les domaines, dans les dimensions dans lesquelles tu veux qu'elle aille. Afin que cette Église soit constituée de gens qui voient loin, Seigneur, et qui accomplissent de grandes destinées. Parce que, Seigneur, tu veux que nos Églises soient des Églises de destinée.
Je te remercie, mon Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Merci beaucoup, pasteur Derain. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever à votre place. Je vais inviter l'équipe de la louange à revenir, s'il vous plaît. Ce matin, le message qu'on a entendu, on a entendu deux messages. En fait, un message, mais présenté de deux façons. Oui, Dieu bénit, mais en même temps, Dieu veut nous orienter pour qu'on puisse vraiment marcher avec lui. C'est un message assez difficile, la deuxième partie. Mais comme vous êtes habitués de venir à l'église à Victoire, moi, je prêche souvent des messages qui dérangent. Amen? C'est vrai, vous êtes habitués à ça. Mais je veux juste vous laisser savoir, avec j'ai rencontré pasteur Derain cette semaine, je n'ai pas parlé de l'église. On a parlé dans 5 mois. Alors, si jamais vous vous posez la question, est-ce que le pasteur Joël a dit ça à pasteur Derain pour qu'il dise quoi que ce soit? Pasteur Derain ne se fait pas diriger par aucun autre pasteur. Hein? Il prêche ce que Dieu lui dit de dire. Sauf que si vous avez entendu dans votre esprit un « ouch », bien, ça veut dire que Dieu veut guérir cette chose-là dans votre vie, tout simplement. Puis on a le choix, quand on entend un message, c'est soit avoir le cou raide, comme le peuple d'Israël, et dire « je continue dans mon chemin » ou dire « Seigneur, le chapeau me fait et Seigneur, je veux que tu me pardonnes et je veux marcher avec toi pour vivre la pleine bénédiction. » Parce que Dieu veut bénir davantage, amen, et Dieu veut nous bénir davantage, mais c'est pas Dieu qui décide la mesure de la bénédiction, c'est nous. Nous décidons aujourd'hui, tout dépendamment de notre réponse au Seigneur. Dieu dit, je dresse devant toi une table de mets succulents, et c'est nous, si on décide, si on va se lever pour aller en manger. Mais le prix que ça coûte, c'est de dire, Seigneur, si je me suis trompé, si j'ai été rebelle, si j'ai eu un coup raide, Seigneur, aujourd'hui, je vais me repentir. Et ce matin, on va louer le Seigneur, mais je veux faire une chose, je vais inviter le pasteur Alain-Patrick, pasteur Derain encore, et je vais inviter toute l'équipe pastorale finalement. Puis on va juste ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous inviter à vous déplacer de votre place. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne priera pas personnellement pour chaque personne. Mais si vous vous dites aujourd'hui, c'est la journée où je réponds oui au Seigneur. On n'a pas besoin de savoir c'était quoi votre nom, mais c'est un pas prophétique que vous faites. Vous prenez le pas, je ne sais pas c'était quoi votre nom, mais aujourd'hui vous dites oui au Seigneur. J'ai invité l'équipe pastorale à venir en avant avec moi, s'il vous plaît. Et on va juste prier sur toutes les personnes qui disent oui au Seigneur. Peut-être que le Seigneur vous a dit, fais telle affaire, et pendant un temps, vous étiez en train d'hésiter, puis vous dites, non, je peux pas faire ça, ça me tente pas. Mais aujourd'hui, Dieu dit, dites-moi oui. Puis si vous êtes prêts à dire oui au Seigneur et vivre un changement, on va prier pour vous. Peut-être que vous dites, ça va me coûter de l'orgueil. Oui, ça peut vous coûter de l'orgueil, mais quand ça nous coûte de l'orgueil, après, qu'est-ce qu'on vit? C'est la victoire. Amen. Donc, on va juste chanter un chant pendant un temps, puis après, je vais ouvrir ça pour que les pasteurs prient sur la compagnie qui sera ici. J'ai la foi qu'il va y avoir une compagnie ici. Parce que si Dieu donne un message comme ça aux pasteurs, c'est parce qu'il y a un public qui a besoin de l'entendre, n'est-ce pas? Il y a des oreilles. S'il y avait des gens qui ont entendu ce que l'Esprit de Dieu a dit à l'Église, moi, je crois qu'il y a des gens ici qui ont besoin de dire, « Oui, Seigneur, je te demande pardon pour telle chose. » On ne veut pas savoir vos choses. On veut juste voir des « oui » au nom de Jésus aujourd'hui, parce que vous êtes prêts à vivre la différence. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, ce matin. On veut te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu nous as parlé par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, je te remercie pour cette compagnie de francophones qui osent te dire oui ce matin. Oh Seigneur, on est une compagnie, on va de l'avant. C'est fini de tourner en rond. C'est fini d'être avorté, de vivre des avortements dans nos vies. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, on te dit oui. Seigneur Jésus, moi je vais prier pour chaque personne qui s'est déplacée ce matin. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que toutes les choses que l'ennemi a volées par séduction, aujourd'hui nous reprenons ces choses-là. Nous disons oui, Seigneur, à ta volonté. Nous disons oui, Seigneur Dieu, à ta parole. Nous sommes des enfants obéissants. Nous sommes des sujets dans ton royaume et on veut marcher avec toi fidèlement aujourd'hui. Oh Seigneur, je relâche ta bénédiction, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur chaque personne qui aujourd'hui marche sur son orgueil, chaque personne qui dit, Seigneur, je m'abandonne à toi aujourd'hui, à ta volonté parfaite. Je dis au nom de Jésus, amen. Amen. C'est nos pasteurs, vous voulez le micro?
Alléluia, Seigneur, je te remercie pour la consécration de ton peuple. Je te remercie pour toutes les personnes qui sont ici, qui se sont avancées, oh Dieu. Père, je te remercie parce que tu les touches là où ils sont. Seigneur, je te remercie parce que tu les guéris intérieurement. Seigneur, je te remercie parce que tu les délivres. Seigneur, je te remercie parce que tu les mets à part, oh Dieu. Seigneur, pour ton œuvre, tu les mets à part, oh Dieu. Je te remercie parce que tu renouvelles leur mentalité, oh Dieu. Je te remercie parce que tu les touches ce matin de façon exceptionnelle. Père, qu'ils repartent transformés, qu'ils repartent touchés, Seigneur. Qu'ils repartent touchés par la puissance de ton esprit. Père, que quelque chose se passe, oh Dieu. Père, nous prions pour le changement. Nous prions pour la transformation. Nous prions pour la percée. Nous prions pour l'avancement, oh Dieu. Père, nous prions pour une relation intime avec toi. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils s'éloignent du péché, qu'ils s'éloignent du mal. Oh Dieu, qu'ils marchent dans l'intégrité, qu'ils marchent, oh Dieu, dans la sainteté, qu'ils marchent dans la consécration, qu'ils ne vivent que pour toi, oh Dieu, qu'ils ne pensent qu'à toi, qu'ils soient passionnés par toi, oh Dieu. Père, je prie pour leur consécration. Oui, je prie pour leur consécration. Cet après-midi, Seigneur, tu les touches, oh Dieu. Tu les conduis, oh Dieu. Tu les diriges, oh Dieu. Tu les amènes à prendre des décisions qui vont les amener à entrer dans leur destinée. Au nom de Jésus, tu les conduis à l'obéissance.
Merci, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ces frères et sœurs, Seigneur. Nous parlons ta parole. Nous parlons ta parole, Seigneur. C'est un temps, mon frère, ma sœur. Vraiment, si tu dois te repentir de quelque chose, demande-lui pardon. Demande-lui pardon, sincèrement. Et demande qu'il vienne te toucher. Qu'il vienne te toucher. Qu'il vienne te toucher. Te toucher, te toucher, te toucher. Oh, sans pas de qui. Merci, Seigneur. Oh, ma sème et des kirs. Merci, 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 Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu veux un peuple qui te soit consacré, un peuple qui renonce à lui-même pour aller chercher les trésors du royaume, les trésors du royaume. Nous voulons être comme ceux, Seigneur, celui qui, Seigneur, a tout vendu pour aller acheter cette perle de grand prix. Oh, merci, 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 merci. Merci, merci, Seigneur, merci. Merci pour la consécration, merci pour la puissance de la consécration, la puissance de la sanctification. La puissance du nettoyage des vies. Si c'est peut-être quelqu'un qui a une mauvaise relation, débarrasse-toi de cette relation maintenant. Prends la décision. Tu dis maintenant ça suffit. Je vais couper. Je reviens. Je repars à la maison et je vais couper avec cette histoire. Parce que c'est en train de me pourrir la vie. En train de me bloquer ma destinée. Oh merci Seigneur. Merci, merci, merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance Seigneur. Merci pour ta puissance. Peut-être que c'est une mauvaise attitude par rapport au pasteur. Repends-toi de cette mauvaise attitude. Demande-lui pardon. Demande pardon au Seigneur et dire Seigneur, plus jamais j'aurai cette attitude par rapport à cela. Plus jamais je ferai ces choses. Peut-être que c'est par rapport aux finances. Tu pensais peut-être avec orgueil en disant non, moi je refuse de donner. Je refuse de donner au Seigneur. Je refuse de donner à l'Église. Non, repens-toi de cela. Dieu veut un peuple consacré. Peut-être que tu es en train d'avoir une idole dans ta vie. Tu n'as pas géré tes priorités. Il y a des choses qui ont envahi ta vie. Alors qu'il y a quelques temps, il y a quelques années, tu avais une belle relation avec le Seigneur et tu as laissé pourrir cette relation avec une idole. Détruis cette idole maintenant dans le nom de Jésus. Remets les choses à leur place. Que Jésus soit celui qui prend ton temps. Qu'il prenne ton temps. Qu'il prenne ton temps. Qu'il prenne ton temps. Qu'il prenne ton temps. Renonce, renonce, renonce en disant simplement, ça viendra après. Quand j'aurai un peu de temps, je m'occuperai de ces choses. Mais arrête que ce soit ça qui prenne toute ta pensée. Ton imagination, tes finances, toute ton énergie. Parce que Dieu ne veut pas ça dans ta vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois consacré, que tu cherches à être consacré. Arrête aussi d'être avec des modes en essayant de suivre le monde. Ne suis pas le monde. Ce n'est pas toi qui dois suivre le monde. Mais le monde doit être influencé par toi, par ta consécration. Renonce à certaines choses. Certains, vous êtes jeunes, vous voulez vivre comme le monde, avec des trucs du monde, et en mélangeant Jésus avec. Débarrasse-toi de ça dans le nom de Jésus. Débarrasse-toi de ça une bonne fois pour toutes dans le nom de Jésus. Consacre ta vie. Consacre ta vie. Parce que Dieu ne peut enflammer que des vies consacrées. Dieu ne peut mettre son feu que sur un vrai sacrifice. Sur un vrai sacrifice. Dieu ne peut enflammer cette église que si le peuple est consacré. Et c'est ce qu'on doit faire, frères et sœurs. Il y a toujours des temps de consécration. Il y a toujours des temps de consécration. Si vous voulez prier pour un réveil, il faut des âmes consacrées. Il faut des gens consacrés. Dieu n'envoie pas de réveil sur des gens qui ne sont pas consacrés. C'est pour ça que tu dois consacrer ta vie. Arrête de dire, je vais à l'église, c'est le dimanche, c'est tout ce que je veux. Non, au contraire, parle à ton pasteur en disant, pasteur Joël, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans l'église, pour faire quelque chose que tu nous donneras de faire.
seulement ce que tu nous demanderas de faire. Et si tu m'enlèves de ma responsabilité, pasteur, je l'accepterai parfaitement parce que tu es mon autorité spirituelle. Il y a une puissante bénédiction dans le respect de l'autorité spirituelle. C'est peut-être ça ton problème aujourd'hui. Repends-toi de ça une bonne fois pour toutes. Sanctifie ta vie, nettoie ta vie. Nettoie ta vie, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus.
Les yeux. Et Père, je prie qu'ils puissent se voir comme toi tu les vois. Seigneur, je prie pour un esprit qui est fort et non pas un esprit qui est faible. Je prie, Seigneur, pour un caractère qui est fort, un caractère qui dit j'irai là où tu m'as appelé à aller. Seigneur, je prie pour un peuple qui est fort et puissant en toi. Pas des gens qui sont faibles et qui se laissent balayer par les circonstances, mais par un peuple, Seigneur, qui est puissant. Un peuple qui dit « Je vais aller de l'avant. Je vais aller là où Dieu m'a appelé à aller. Quelles que soient les circonstances qui s'opposeront à moi, je resterai ferme. Quel que soit ce que le diable veut faire dans ma vie, je resterai ferme. » Je prie pour un peuple fort, Seigneur. Non pas un peuple léger, non pas un peuple peureux, mais un peuple qui marche dans la confiance en toi. Père, je prie pour cette région. Je prie afin qu'une puissance divine coule de ton esprit, Seigneur. Coule sur ton peuple pour apporter des solutions à cette région. Pour apporter une gloire comme cette région n'a jamais connue. Je prie pour un peuple qui est puissant en esprit. Un peuple consacré. Un peuple qui plie le genou pour voir cette génération être sauvée. Pour voir des gens être puissamment touchés dans leur maison, dans leur vie, dans leur famille, dans des sociétés. Je prie une gloire nouvelle, Seigneur, sur cette génération. Je prie un peuple consacré, un peuple qui paye le prix, un peuple qui ne marche pas pour ses propres ambitions, pour ses propres désirs, pour ses propres motivations. Mais je parle un peuple consacré, un peuple consacré à toi, un peuple consacré à toi, parce que ta parole dit que tout est possible à celui qui croit. Oui, le réveil est possible, Seigneur. Père, merci. 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 Parce que tu nous as donné les clés pour refuser la crainte, pour refuser l'oppression et pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, pour marcher sur toute la puissance de la timidité, pour marcher sur toute la puissance de l'esprit d'infériorité, de l'esprit d'improductivité. Oui, vous êtes capable. Vous êtes capable de faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer ou penser. Dieu en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de vos rêves. C'est l'espérance des visions que Dieu a mis en vous. Christ en vous, c'est l'espérance de voir votre famille changer. De voir votre entourage changer. De voir vos voisins changer. De voir cette ville changer grâce au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui sort de toutes les situations dramatiques de la vie. Le nom qui guérit, et il guérit vos âmes aujourd'hui. Il change vos pensées, il change vos perceptions de vous-même et de son œuvre.
Le Seigneur vous a donné une vision. Maintenant, on va juste l'acclamer pour cette vision qu'il vous donne. C'est une vision de victoire. C'est une vision où la joie règne. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Le remercier pour la vision qu'il vous donne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous donnes une vision pour demain. Une vision pour demain. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Et on se permet de rêver en couleur. Amen. On se permet de rêver en couleur parce que ça ne coûte pas plus cher. Amen. Le pasteur Jean va nous conduire dans un chant de la fin et on va se réjouir sachant que Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné, il nous a lavé et maintenant il marche avec nous pour nous aider à tenir bon avec lui. Amen. Gloire à Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.